Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce second épisode de Carnet de Passage. Je suis Robin et aujourd'hui je suis accompagné de mes camarades Julia et Lola qui co-animeront avec moi cet épisode.
Bonjour.
Bonjour.
Carnet de Passage est une émission pour celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux sciences humaines et plus précisément à l'anthropologie. Dans ce podcast, vous entendrez des chercheurs, des chercheuses parler de ce qu'on pourrait qualifier de rituel de passage. Une expérience si particulière et si chère de notre profession, à savoir le terrain. L'idée étant que vous ayez accès à des conversations moins formelles que ce que vous avez l'habitude d'entendre dans le milieu universitaire ou bien dans des événements scientifiques. Et cela pour que vous puissiez saisir toute la dimension humaine de notre activité et de celles et ceux qui la font vivre. Pour ce second épisode, je suis accompagné de Jérôme Courdoriès, professeur à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous.
Jérôme, vos recherches portent de manière générale sur la parenté, le genre et le corps. Plus particulièrement, vos terrains se sont concentrés autour de la conjugalité homosexuelle masculine et plus récemment sur la GPA, soit la gestation pour autrui, et son implication culturelle, politique et juridique dans la société occidentale. Avez-vous des choses à ajouter ou compléter ?
Ouais, peut-être. J'ai travaillé également sur l'expérience des familles homoparentales, qu'elles soient partagées par des couples de femmes ou des couples d'hommes, et quelle que soit la façon dont elles étaient nées. Et je me suis également intéressé à l'expérience des personnes transgenres qui sollicitent un changement de sexe à l'état civil, et plus particulièrement ces dernières années au point de vue des magistrats qui instruisent ces demandes.
En somme, on peut donc dire que vous êtes un anthropologue du proche. C'est un qualificatif qui est parfois interrogé au vu de l'héritage exotisant de la discipline et de sa place dans le monde scientifique aujourd'hui. Mais plutôt que de continuer à en parler, j'aimerais bien vous laisser la parole sur ce qui est pour vous être un anthropologue du proche et pourquoi on en parle en ces termes.
Vous avez raison, la place du proche dans l'ethnologie, elle est interrogée effectivement depuis longtemps. Il n'y a rien de très évident à reconnaître comme anthropologue quelqu'un qui travaille sur sa propre société. J'insiste bien là-dessus, quelqu'un qui travaille sur sa propre société, c'est pas simplement l'expérience d'un anthropologue français comme moi qui travaillerait sur la France, mais ça serait aussi l'expérience d'un anthropologue brésilien qui travaillerait sur la société brésilienne. Mais c'est oublié un peu vite l'histoire de l'anthropologie, puisque l'anthropologie, elle a été faite, bien sûr, de l'anthropologie du lointain et de l'exotique, comme on a pu parfois le qualifier, mais elle a été faite aussi de l'ethnologie du proche, hein, depuis quasiment son émergence, puisqu'au début, on ne distinguait même pas la sociologie et l'anthropologie. On reconnaît comme des chercheurs importants pour nos deux disciplines, à la fois Émile Durkheim et Marcel Mauss, par exemple. Je pense que faire de l'anthropologie du proche pose des questions et impose des précautions, peut-être, qui ne s'imposeraient pas, peut-être, hein, de la même manière, si je faisais de l'anthropologie ailleurs. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on doit faire peut-être un peu plus encore, on doit s'appliquer un peu plus encore à prendre de la distance avec son propre terrain, à la fois parce que c'est son terrain, mais aussi parce que c'est parfois quelque chose de très familier. Alors il ne faut pas en déduire que faire l'anthropologie du proche, c'est forcément travailler sur des choses qu'on connaît par cœur, travailler sur des...
C'est pas travailler chez soi, quoi, c'est pas...
Non, je ne fais pas mon enquête dans mon salon ni dans ma famille, même si, comme n'importe quel chercheur, les expériences que je fais en tant qu'homme, en tant que Jérôme Courdoriès, ben ça me nourrit aussi, évidemment. Je fais aussi du terrain sur des choses qui pourraient, de façon étonnante, vous paraître très exotiques. Il n'y a rien de naturel chez moi à aller rencontrer des magistrats, par exemple, et à m'intéresser à la manière dont travaillent des juges ou des procureurs, ou même encore des avocats. Il n'y a rien de très familier chez moi à rencontrer des hommes et des femmes qui ont eu beaucoup de difficultés à fonder une famille et qui ont mobilisé des ressources à l'extérieur de leur couple pour pouvoir y parvenir. Parce que moi-même, je n'ai pas cette expérience.
C'est intéressant que vous mentionniez ça parce que le terrain de votre thèse, c'est un terrain qui vous était un peu familier. Le choix que vous avez fait pour ce premier terrain, il n'était pas anodin. Il y avait quand même un lien de base qui vous a poussé à vous intéresser à ces questions-là.
Alors, ça, il faut que je fasse un peu un peu d'histoire, là, que finalement.
Oui, exactement.
On était en 1998, je crois.
C'était en novembre.
Mais oui, c'est fou.
J'en étais sûre.
Quasiment.
Oui, j'en étais sûre.
Donc c'était sans doute en novembre 98, en réalité un peu plus tôt, sans doute en septembre plutôt 98. Après une pause dans mes études, après une licence et une maîtrise d'histoire à l'époque, j'ai décidé de reprendre mes études, alors que je faisais depuis un moment tout à fait autre chose, à la fois pour gagner ma vie et pour et sur le plan du bénévolat. Et donc j'ai décidé de solliciter une anthropologue qui était historienne à l'époque. En tous les cas, moi, je la connaissais comme une historienne. Je ne l'avais jamais eue en cours, mais on m'avait beaucoup parlé d'elle. C'était Agnès Fine, qui travaillait, me semblait-il à l'époque, sur les questions de genre. Or, moi, j'étais volontaire à l'association AIDE, Association de lutte contre le sida, déjà depuis quelques années. Et j'avais envie de faire se rencontrer les deux parties de ma vie qui allaient devenir importantes, c'est-à-dire celle de mon initiation à la recherche, et celle de mon engagement politique et citoyen. Donc je suis allé la voir en lui disant assez naïvement « Bonjour Agnès Fine, je m'appelle Jérôme Condulès, vous ne me connaissez pas, mais voilà, j'ai entendu parler de votre travail, il paraît que vous vous intéressez aux questions de genre, et peut-être de sexualité, et moi j'aimerais travailler sur le sida. » Et bon, alors je passerai les détails, évidemment, ils ne sont pas tout à fait intéressants peut-être, mais au final... je suis sorti de là avec un autre sujet, la conjugalité gay, parce qu'au fil de la discussion, sans doute parce qu'elle a un peu de flair, elle est venue à m'inviter à considérer que finalement, on était en 98, donc à l'époque, un an avant le vote définitif de la loi du pacte civil de solidarité.
Qu'est-ce que ça impliquait à ce moment-là ? Je ne sais pas si tout le monde...
Le pacte civil de solidarité, c'était un nouveau dispositif juridique qui, à partir de 1999, a reconnu pour la première fois l'existence des couples de même sexe et a proposé une solution légale pour tous les couples, hétérosexuels ou homosexuels, pour sécuriser leur vie à deux. Mais elle n'a pas fait que ça, cette loi-là. Elle a aussi introduit le concubinage dans le code civil et donc donné des droits à des concubins, qu'ils soient homo ou hétérosexuels. Je sors de cette entrevue avec Agnès Fine avec l'idée de travailler sur la conjugalité gay au motif que ça faisait à l'époque déjà un ou deux ans que ce sujet faisait débat, agitait le débat public, soulevait beaucoup d'opposition, pas mal de violence aussi. J'ai eu pour ma part une impression de déjà-vu autour de la loi sur le mariage pour tous en 2012-2013, hein, plus de 10 ans plus tard. Et donc Agnès Fine me dit à l'époque, écoutez, on parle beaucoup de la conjugalité homosexuelle, mais finalement on n'en connaît pas grand-chose. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux dessus, il n'y a pas d'enquêtes qui ont été menées en sociologie ou en anthropologie sur cette question. Est-ce que ça vous intéresserait pas de travailler là-dessus ? Bon, bah oui, ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé aussi parce que, à l'époque, moi, j'étais déjà gay, évidemment, et je m'interrogeais beaucoup sur ce qu'allait être mon avenir émotionnel. Enfin, je n'étais pas engagé avec quelqu'un, pas tout à fait en tous les cas. Et donc, ça a certainement rencontré, évidemment, mon expérience personnelle, hein. Mais de façon... De façon moins intime qu'on pourrait le penser. Je n'étais pas moi-même en couple, j'avais jamais vraiment fait l'expérience de la conjugalité, ni véritablement sans doute de l'amour, de la sexualité, oui, mais voilà, pas de l'engagement sur le long cours, en tous les cas. Donc oui, de ce fait, hein, en travaillant sur des sujets qui sont à la fois des sujets politiques et l'objet de débats idéologiques, mais aussi qui font écho à une expérience personnelle, ça demande peut-être quelques précautions supplémentaires. Mais ça, je l'ai découvert au fur et à mesure.
Et vous pouvez nous parler un peu de ces précautions supplémentaires, justement ?
C'est compliqué. Je ne suis pas sûr de les avoir toutes identifiées. Ce que je peux commencer à évoquer, c'est peut-être les questions que je me suis posées, moi. C'est-à-dire que, bon, moi, je découvrais tout à ce moment-là. Je découvrais l'anthropologie. Je n'avais pas été formé à l'anthropologie, donc je l'ai découverte sur le tard. Comme pas mal de gens de ma génération, finalement, parce qu'il y avait assez peu de formation initiale en anthropologie à l'époque. Je ne savais pas faire d'ethnographie. Je maîtrisais très mal, je ne connaissais pas du tout la méthode de l'entretien, ce que pouvait être de mener des observations, tenir un carnet de terrain. Tout ça, je l'ai appris en m'initiant. Et j'avais lu très, 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 très peu d'anthropologues. Assez vite, je me suis posé de multiples questions. Par exemple, au cours de mes premières enquêtes de terrain, autour de moi, un ami a rencontré quelqu'un et ils ont entamé une relation conjugale sur plusieurs années. Et au tout début, je me suis interdit, en fait, de me servir de ce que je voyais là pour mon travail. J'avais l'impression qu'il fallait que je mette tout ça, que je mette beaucoup de distance entre les moments où j'étais censé faire du terrain, recueillir des histoires, des biographies, etc., et le moment où moi je vivais. Je vivais en tant que moi-même et pas en tant qu'ethnologue. Et j'ai mis très longtemps, j'ai mis au moins, parce que j'ai poursuivi sur ce sujet en thèse, comme vous l'avez mentionné, et j'ai mis au moins, 3-4 ans à comprendre que, en fait, je pouvais aussi me servir de ça, de ce que je voyais autour de moi. Et c'est là que, si vous voulez, jusque-là, mon ethnographie, elle avait quelque chose d'un peu artificiel. C'est-à-dire que je prenais des rendez-vous avec des gens, on se voyait autour d'un café.
C'était très formalisé, très...
Exactement, c'est ce que je veux dire par artificiel. Vous avez raison de le préciser, c'est-à-dire que on prenait des rendez-vous, j'avais mon dictaphone, j'avais quelques notes, et puis on menait un entretien de quelques heures. Ça a souvent été passionnant, quelquefois ça a été laborieux, mais ce faisant, en fait, je me privais de toutes les ressources qui constituent le sel de l'ethnographie. Tout ce qu'on peut être amené à observer, tout ce dont on est le témoin direct, on est là. Le fait de pouvoir les observer... fait qu'on agit aussi un peu sur elle, évidemment, sans doute. Mais effectivement, au bout de 3-4 ans, mon ethnographie, elle a pris une autre épaisseur du fait que je me suis autorisé à me saisir de ce que je voyais autour de moi, dans mon entourage, mais aussi à me saisir plus généralement. C'est à partir de là aussi que j'ai réussi à me saisir plus généralement de ce que je voyais au plus loin. Dans l'espace social, dans la presse, dans la rue. J'avais déjà photographié des pochoirs ou des autocollants sauvages collés dans la rue au lendemain de Gay Pride et qui disaient les PD au bûcher. Enfin, ce genre de truc un peu charmant. Mais finalement, j'en faisais pas grand-chose. Et c'est uniquement à partir de là que je me suis autorisé à me saisir de tous les éléments dont se saisirait un ethnographe dans une société qui n'est pas la sienne et dans laquelle il passe un moment.
Mais justement, cette rupture de la barrière un peu, j'imagine que c'est allé avec un... Comme vous travaillez sur quelque chose qui est assez intime, ça va aussi avec un bagage sentimental. Donc ça doit être difficile de laisser tout ce qu'on vous raconte, les choses qui peuvent être parfois difficiles ou peut-être douloureuses sur le terrain. Et quand vous rentrez chez vous... À partir du moment où justement vous segmentez moins l'entretien de « je vais voir des gens » et que vous agrandissez ça à toute la vie, il y a un bagage émotionnel qui fait que quand vous rentrez chez vous, vous pouvez pas laisser tout ça à côté, j'imagine.
Mais je suppose qu'un ethnologue qui vit pendant plusieurs mois ou plusieurs années dans une société qui n'est pas la sienne, lui aussi fait cette expérience finalement de rentrer chez lui le soir après avoir entendu, vu des choses qui l'ont bouleversé parfois. Alors oui, forcément, les choses dont je parlais avec les gens avec lesquels je travaillais étaient intimes, avec des degrés d'intimité divers. Hein. Je m'intéressais à tout ce qui faisait, la conjugalité de mon point de vue... À la fois la rencontre amoureuse, la vie à deux, les relations avec l'entourage, la sexualité, l'argent, la répartition des tâches domestiques, ce genre de trucs. Et oui, de temps en temps, j'ai entendu des choses qui m'ont bouleversé, beaucoup ému, avec lesquelles je ne savais pas toujours quoi faire. Voilà, je me souviens par exemple, enfin, parmi les choses qui m'ont les plus bouleversé, au sens de le plus ému, mais aussi au sens où m'ont aussi un peu désemparé, bah, je me souviens de trois hommes qui m'ont raconté être victimes de violences conjugales. On en parle peu des victimes des violences conjugales entre hommes, et pourtant, évidemment, elles existent. Il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y en a pas là aussi. Et alors, autant, aussi bizarre que ça puisse paraître, je ne m'y étais pas préparé. Et même la deuxième ou la troisième fois où c'est arrivé, j'ai été surpris. Et là, c'est vrai que ça pose des... Ça a soulevé chez moi beaucoup de questions. C'est-à-dire jusqu'à quel point je suis seulement ethnographe.
Ouais, la position là, elle s'effrite en fait, la limite entre vous êtes un confident et vous êtes un ethnologue en train de faire son terrain qui est censé maintenir une certaine distance avec ses interlocuteurs, ça devient très poreux à ce moment-là.
Ouais, ouais, ça devient très poreux. Et ce, d'autant plus qu'on est dans des sociétés qui connaissent la psychanalyse, qui connaissent la psychologie, qui connaissent le travail social. Et donc, même si je crois me souvenir que parmi ces trois hommes-là, personne n'avait consulté de psy, il n'en reste pas moins que je me demandais s'il... Enfin, je me demandais quelle était ma place, en fait, comment je devais faire. Est-ce que j'étais... ouais, est-ce que j'étais ethnographe? Est-ce que j'étais... comment on dit c'est en train de m'échapper, confident, ou est-ce que on me prend pour un professionnel de l'écoute susceptible de les aider, ce que je n'étais pas. Et c'est vrai que la situation d'interlocution, ça survenait toujours dans des contextes spécifiques, hein. On était deux dans une situation d'interlocution unique, on n'était pas en groupe, on n'était pas là comme ici autour d'une table avec plusieurs personnes. Donc cela, le cadre de l'interlocution, le sujet, le ton aussi de la discussion, parce qu'on parlait de choses qui parfois étaient très personnelles, favorisaient l'émergence de ce genre de confidence et puis le brouillage des fonctions, des situations. Et puis, il n'y avait pas que ces histoires-là, évidemment, ça c'est celles les plus marquantes, mais il y en avait des tas d'autres qui m'ont, moi, aussi poussé de façon inattendue, bizarrement, à me poser des questions sur moi, à revenir chez moi après avoir passé une partie de la journée avec des gens avec lesquels je travaillais, avec des tas d'autres questions.
Et sur c'est... votre vie personnelle, vous voulez dire?
Ouais, sur ma vie personnelle, les discussions politiques qui agitaient la société à ce moment-là, parce que en 97, c'est vers 96-97 qu'ont émergé dans l'espace public les discussions autour de la reconnaissance des couples de même sexe. Je n'étais pas engagé sur ces questions politiquement à l'époque, j'en pensais pas grand-chose. Et ça a duré pendant, je sais pas, ça a duré jusqu'à maintenant. Enfin, c'est pas encore fini, j'ai l'impression. Ouais. Même si le mariage a été adopté depuis 10 ans.
Mais ça soulève encore pas mal de polémiques
c'est ça.
Et d'opposition.
Je crois. Et c'est vrai que ça me posait des questions aussi sur ce plan-là, c'est-à-dire à la fois sur le plan de mon expérience personnelle, mais aussi sur le plan, un plan plus politique. Et c'est ça qui est plus compliqué à gérer quand on... C'est pas seulement une difficulté qui est liée au fait de travailler sur le proche, c'est aussi une difficulté qui est liée au fait de travailler sur un sujet qui agite le débat social et politique.
Complètement. Dans ce cadre-là, en plus, on peut très bien se demander quelle est la place d'un chercheur ou d'une chercheuse en sciences humaines quand il ou elle travaille sur des sujets d'actualité qui font polémique. C'est-à-dire que, mine de rien, les écrits ont un impact, les publications ont forcément une orientation politique. Est-ce que du coup, vous avez embrassé ce côté-là, ou est-ce que vous avez dû faire des choix dans ce que vous publiez à ce moment-là ?
Les deux, je dirais. C'est pas venu tout de suite. Justement, j'ai tâché de me tenir à l'écart de tout ça pendant très longtemps. Mais j'ai entendu des choses. Enfin, j'ai fini par me dire, mais je peux pas rester silencieux après avoir entendu tout ce que j'ai entendu dans les discussions que j'avais sur le terrain. Après avoir entendu des gens m'expliquer leur expérience de l'homophobie, de la violence. Moi, j'ai eu la chance de ne pas y être trop confronté. Pas trop. Mais certains, qu'est-ce qu'ils ont dégusté ? Jusqu'à pas pouvoir imaginer un jour être heureux à deux, jusqu'à exclure totalement le fait de pouvoir fonder une famille, alors qu'ils auraient voulu éperdument, depuis leur plus jeune âge, être parents, et jusqu'à se prendre des coups, bien sûr, et parfois être laissé pour mort sur le trottoir, ben, je me suis dit que j'avais une responsabilité, en fait. Je pouvais pas laisser ces paroles simplement dans les pages d'articles de revues d'anthropologie qu'une poignée de gens lisent seulement. Et donc, disons que j'ai moins pris la parole avec la plume dans les écrits scientifiques que oralement quand j'ai eu l'occasion, ou alors dans la presse, en m'autorisant à partir de 1 ou 2 ans après la fin de ma thèse à prendre la parole quand on me le demandait, quand on m'y invitait. Et voilà, donc c'est ça qui fait que, pour moi, ça a été un moteur. C'était pas pour ça que j'ai choisi ces sujets. C'est pas pour cette raison que j'ai choisi de travailler sur ce sujet-là comme sur les suivants. En fait, ce qui me plaît toujours, c'est de travailler sur un sujet qui est en prise avec le débat public, mais de m'y intéresser différemment. J'aime bien m'intéresser à ce qui intéresse personne, finalement, sur ces sujets.
Vous avez un exemple ?
Ouais, peut-être un ou deux même.
Prenons les deux alors.
par exemple la GPA. La GPA, j'ai été amené à prendre des positions, mais ça a été dans un deuxième temps. J'ai choisi de travailler sur ce sujet par hasard. Deux collègues, qui à l'époque n'étaient pas encore tout à fait des collègues, puisque je n'étais pas recruté sur un poste d'enseignant-chercheur. Donc deux collègues, Irène Théry et Laurent Serrault, organisaient 2 journées consacrées à la gestation pour autrui, 2 journées d'études consacrées à la gestation pour autrui. Dans les 2 journées, parlait Chantal Collard. Elle est revenue sur l'enquête ethnographique qu'elle avait menée au Canada et en Californie sur la gestation pour autrui. C'était à l'époque un sujet assez nouveau. Et elle, c'est une anthropologue de la parenté qui avait auparavant travaillé sur l'adoption. Elle était toujours soucieuse de circonstancier ce qu'elle rapportait de ses observations, de rappeler toujours qu'elle ne parlait pas pour la GPA en général, mais qu'elle parlait toujours du terrain qu'elle avait mené dans ces contextes-là. Il y avait de l'ethnographie, des situations, des verbatims qui étaient rapportés. C'était éclairant. Ça m'a intéressé. Il y avait aussi dans ces 2 journées 2 femmes qui étaient en quelque sorte invitées comme des témoins. C'était 2 femmes en couple hétérosexuel, mères, chacune de 2 enfants nés de gestation pour autrui aux États-Unis. Dans la 2e journée, il y avait également donc Chantal Collard, qui parlait à nouveau cette fois-ci devant un public différent, et était invitée aussi à cette journée Sylvia Nagasinski, philosophe de son état, nouvellement membre de l'Académie française.
Excusez-moi.
S'il vous plaît. Et connue pour être opposée de manière très, très radicale à la gestation pour autrui. Elle est intervenue en balayant, y compris avec un geste méprisant, l'exposé de Chantal Collard en lui disant « Madame, vous nous avez livré un aperçu du rose vif de la gestation pour autrui. Vous avez enjolivé tout ça.
Ah.
Ça, enfin, grosso modo, ça n'existe pas. » Et donc, elle a entrepris elle a déroulé un discours qui était déjà assez connu dans sa bouche, qui consistait à démontrer, elle démontrait rien, mais en fait, elle prétendait démontrer la gestation pour autrui consistait dans une esclavagisation de femmes pauvres et noires ou de couleur par de riches occidentaux blancs. Mmh. Et là, évidemment, quand elle parlait, bon, Sylvia Nagasinski, c'était déjà un peu, une figure médiatique connue, hein. Et donc, quand elle parlait, je dirais que 70% ou 80% de l'assistance buvait du petit lait, l'applaudissait à tout rompre, y compris quand elle disait des choses hyper violentes à propos de l'exposé de Chantal Collard. Donc, j'étais animé par une forme de colère à ce moment-là, comme mes collègues, mais aussi en regardant les deux femmes dont je parlais à l'instant, qui étaient au fond de la salle, et qui, quand elles entendaient ça, pleuraient, en fait. Parce qu'elles se trouvaient assignées par cette philosophe qui ne savait même pas qu'elles étaient là. Ou pire encore, je crois même qu'elles savaient qu'elles étaient là. Se voyaient assignées à la position d'esclavagiste. Au bénéfice d'un débat clivé, clivant, outrancier. Mm. Et donc, ce soir-là, j'ai un peu plus parlé avec elle, le lendemain matin aussi. Et le courant était passé, on avait passé pas tout à fait deux jours ensemble, et le courant était passé, et là, je me suis dit que j'avais rencontré mon nouveau sujet. Ça tombait à un moment où j'en avais ras les couettes des couples gays. J'avais travaillé avec les couples gays pendant 8 ans de thèse, 2 ans de postdoctorat. Ben, un terrain s'est ouvert à moi, en fait. C'est-à-dire que j'avais rencontré ces deux femmes, qui étaient prêtes à me parler, qui avaient déjà commencé à me parler. Quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, je noircissais mon carnet, et qui étaient prêtes à me revoir. Il se trouve qu'elles étaient impliquées dans une association de parents, donc elles étaient prêtes aussi à m'aider, à rencontrer d'autres personnes. En France, à ce moment-là, personne ne menait d'enquête empirique sur la gestation pour autrui. Je me retrouvais dans une situation de ce point de vue assez comparable au moment où j'ai démarré à travailler sur la conjugalité gay, où personne encore en France n'avait travaillé là-dessus de façon empirique. Et donc j'ai décidé de me lancer. Voilà, c'est comme ça qu'est arrivée la gestation pour autrui dans ma vie, en quelque sorte. Dans ma vie de chercheur et puis dans ma vie tout court. Hein, parce que, comme vous savez, quand on est chercheur et chercheuse, hein, le risque est grand de se laisser complètement happer par cette passion. Hein.
Oui. Et de tisser des liens avec nos interlocuteurs et interlocutrices. Et,
Alors, c'est pas un risque.
Ah oui, voilà, c'est...
Ça, c'est plutôt, c'est plutôt une richesse. Hein.
C'est vrai.
Et donc, ce qui a en gros agité le débat public, ce qui intéresse le débat public, si je caricature un peu, c'est est-ce que conduire une GPA, c'est marchandiser un enfant? Est-ce que conduire une GPA, c'est louer le ventre d'une femme? Est-ce que lorsqu'on sollicite une femme pour porter un enfant pour soi-même, est-ce qu'on est en train de l'esclavagiser en quelque sorte? Ça, c'est une question, moi, à laquelle j'avais pas envie de m'intéresser quand j'ai commencé à travailler sur la GPA. J'ai commencé à travailler sur la GPA à un moment où j'avais envie d'embrasser l'anthropologie de la parenté. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est de travailler, d'analyser la manière dont se tissent des liens de parenté dans des situations où tout le monde sait que l'enfant n'est pas issu du ventre de sa mère, ou que l'enfant est élevé par deux hommes et manifestement né d'une autre femme, qui ne l'élève pas, qui n'est pas sa mère, que personne ne reconnaît comme sa mère, pas même elle. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment ça se fabrique, ces liens de parenté, dans une société où le rôle de la grossesse et de l'accouchement est absolument central pour construire non seulement la maternité, mais aussi la paternité. Comment se construisent des liens de parenté, non seulement entre un enfant et ses parents, qui n'en sont pas nécessairement les géniteurs ou qui ne l'ont pas nécessairement mis au monde, mais aussi les apparentés de ces parents-là. Mm. Alors que notre idéologie de la parenté dans nos sociétés ouest européennes et plus largement occidentales, même s'il faudrait prendre des précautions avec ce mot, dans des sociétés où l'idéologie de la parenté repose hein, sur le fait qu'un enfant est nécessairement élevé par des parents qui sont amoureux réciproquement l'un de l'autre et qui l'ont conçu en ayant des relations sexuelles l'un avec l'autre, quand il n'y a pas cet ingrédient qui est pourtant essentiel du point de vue de nos représentations, comment ça se passe? Parce que ça se passe. Mmh. Voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé, moi, qui était moins au cœur du débat public. Même si, après la loi du mariage pour tous, ou à peu près au même moment, je ne sais plus, s'est posée aussi la question de savoir ce qu'on faisait de l'état civil de ces enfants qui étaient nés d'une GPA à l'étranger et que l'état civil français ne reconnaissait pas comme les enfants de leurs propres parents. Donc là, mais cette question, elle est arrivée dans le débat public après que moi, j'ai commencé à travailler finalement. Et voilà, après, j'ai travaillé sur la modification de la mention de sexe à l'état civil. J'avais fait une première enquête hein, sur le changement de prénom des personnes trans pendant que j'étais en thèse. J'avais fait une petite enquête à côté. Pas parce que j'avais le temps, mais parce que l'occasion s'est présentée. Ma directrice de recherche, Agnès Fine, menait un projet collectif sur le rapport à l'état civil, qui a donné lieu à un livre, et puis un jour, un peu benoîtement, je lui ai dit, ça vous intéresse la question du sexe à l'état civil? Est-ce que vous avez pensé à ce que quelqu'un y travaille dessus? Personne ne travaille dessus dans son groupe. Donc je me suis lancé sur la question avec un collègue doctorant à l'époque, on s'est partagé le travail, on a rédigé deux textes qui sont parus dans ce livre. Et à l'époque, si j'avais eu envie de me lancer sur cette question, c'est... Je suis un homme cisgenre, hein, c'est-à-dire que je ne fais pas l'expérience de la transition. Mais dans mon parcours à Aide, j'avais croisé des personnes transgenres, transsexuelles, comme on les appelait à l'époque, dont une jeune femme qui s'appelait Laura. Je ne sais pas si elle est toujours en vie. Mais que j'avais d'abord connu sous le nom de Marc. Et c'était pas une amie, mais c'était quelqu'un que je voyais dans le cadre des activités associatives de temps en temps, et que je voyais bouger dans sa vie, s'autoriser de plus en plus à vivre comme elle l'entendait et à se montrer comme elle l'entendait, mais aussi à essuyer la violence transphobe. Et je suppose que si j'ai eu envie de travailler sur ce sujet à ce moment-là, si je l'ai proposé à Agnès Fine, c'est parce que j'avais en tête cette histoire, je suppose. Et puis j'y suis revenu beaucoup plus tard, il y a quelques années, dans le cadre d'un programme de recherche piloté par Laurent Serrault, encore elle, qui a été aussi ma garante hein, pour mon habilitation à diriger des recherches, et qui, elle, est une spécialiste de l'expérience transgenre, et avec qui on a mené un travail de recherche sur l'état civil de demain pour les personnes trans. Et donc moi, dans ce cadre-là, j'ai été conduit à rencontrer des juges et des procureurs pour m'intéresser à la manière dont ils se saisissaient de ces demandes de modification de sexe à l'état civil, comment ils travaillaient, et au final, ce que j'ai essayé moi de montrer à partir de mes données, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une approche relationnelle du genre était en train d'entrer à l'état civil à Moudou, à feu doux, enfin je ne sais plus quelle est l'expression pour dire ça, mais sans qu'on ne le dise vraiment. Voilà.
Vous pouvez juste un peu développer ce que vous entendez par approche relationnelle?
Ouais. Alors ça m'est apparu avec le changement juridique qui était intervenu dans le cadre de la loi pour une justice du 21e siècle, hein, qui est rentrée en application début 2018, et qui, parmi les nombreuses dispositions qu'elle recouvrait, prévoyait un changement légal pour accéder à la modification de la mention de sexe. C'est-à-dire qu'à partir de là, le juge ne peut plus mobiliser de certificats médicaux pour attester du changement de sexe de la personne. C'est-à-dire là, pour le coup, du changement de sexe physiologique de la personne ou de la transition corporelle. Il n'a plus le droit de faire ça. Donc, les seules choses sur lesquelles il peut s'appuyer, c'est la réputation de la personne. Autrement dit, le fait, la manière dont elle se donne à voir et la façon dont les autres l'aperçoivent. Il s'appuie concrètement sur des attestations qui sont fournies par les personnes demandeuses et qui visent, qui sont toutes assez stéréotypées et qui mobilisent des arguments de tous aussi stéréotypés et qui visent à dire, ben oui, telle personne que je connais sous tel nom, ben je la connais bien comme une femme ou comme un homme, la preuve. Elle porte des jupes, des talons hauts, elle a les cheveux longs, elle se maquille, je l'appelle Françoise, etc., etc. Bon, je vous donne un exemple qui n'existe peut-être pas tout à fait. Hein. Mais qui plus est, les juges m'expliquaient qu'ils aimaient bien organiser des audiences, ce qui n'est pas obligatoire. Hein. D'accord. Et dans ces audiences, des juges m'expliquaient que ça les intéressait de voir comment la personne se présente, de discuter avec elle. Elle les faisait parler de leur expérience, mais cette expérience, elle leur était déjà accessible par écrit, dans la demande, dans le dossier déposé par la personne. Ce qui m'a laissé penser qu'en fait, elle cherchait autre chose que le contenu de leur histoire, qui était déjà là, disponible dans le dossier. Ce qu'elle cherchait, c'était à voir comment la personne se présentait, comment elle se mouvait, comment elle se déplaçait, quel était son exis corporel. Tiens, c'est le mot que je cherchais hier en cours. comment elle marchait, c'est-à-dire comment elle parlait.
Ce qu'elle dégage, en fait, en termes de personnalité.
Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'elle essayait de déceler des indices dans sa façon d'être avec elle, dans une situation d'interlocution, qui disait son genre. C'était une façon, en fait, de confirmer la demande que faisait la personne. Et c'est là que j'y ai vu en fait une entrée de la dimension relationnelle du genre, c'est-à-dire la loi, elle le dit pas, bien sûr, que le genre s'appuie sur des critères relationnels.
Il n'y a pas des cases à cocher en fait dans la conversation entre le non. juge et l'interrogé.
Bah non, parce que évidemment dans ces situations d'entretien, je pousse les juges. Je leur dis, ah bon, alors qu'est-ce que vous regardez
oui,
particulièrement
c'est fascinant. Ouais.
Et donc là, j'ai une juge face à moi, mais par ailleurs hyper sympa. Qui me dit, et très ouverte manifestement, beaucoup plus que certains autres, et qui me dit, ben je sais pas, si elle porte une jupe, si elle a les cheveux longs, si elle se maquille. Alors je dois avoir un regard un peu insistant, parce que je suis assez expressif de manière générale. Hein. et sans doute sous le poids de mon regard insistant, elle s'arrête, elle se regarde. Elle était habillée en tailleur pantalon noir.
Oui.
Elle portait des chaussures plates, hein, plutôt basket de ville, si ma mémoire est bonne. Elle n'était pas très maquillée ou pas maquillée du tout, et portait les cheveux courts.
Aïe.
Et là, elle me dit, bon, oui, bon, effectivement, ça ne marche pas à tous les coups. Moi, à ce compte-là, je suis plutôt masculine. Et donc, finalement, la situation d'interlocution avec moi l'a poussée à s'interroger elle-même sur les critères qu'elle mobilisait. Et elle reconnaissait d'une certaine façon qu'elle mobilisait des stéréotypes qui ne s'appliquaient pas à toutes les personnes, puisqu'elle-même, elle se reconnaissait comme une femme.
Ne portant pas,
pour le coup, toujours de jupe, se maquillant pas. Elle m'a dit de détester être maquillée, etc., etc. Elle ne sait pas ce qu'elle cherchait, elle ne savait pas le dire. La seule réponse qu'elle a pu mobiliser, c'était des stéréotypes. Mais je pense que là non plus, ce n'est pas ce qu'elle cherchait, en réalité. Ce qu'elle cherchait, c'était des indices. C'est-à-dire ce qui fait que dans une situation d'interlocution, on a le sentiment, assez ferme souvent, d'être face à un homme ou une femme. Chacun d'entre nous, on ne se pose pas la question. Vous êtes face à moi, je suppose que vous me voyez comme un homme depuis qu'on se connaît. Mais vous n'avez pas l'habitude de vous interroger sur ce qui fait que vous me voyez comme un homme. Ce qui est inédit là, c'est que les juges, particulièrement là parce que je leur pose la question, sont amenés à s'interroger là-dessus. Mais en réalité, ils font la même opération que tout le monde. Voilà, et c'est ça qui me laisse penser que, contrairement à ce que le législateur a prévu, il a fait rentrer dans la loi un changement de taille qui peut-être pas tout à fait nouveau, mais il serait trop long de l'expliquer, qui est la dimension relationnelle du genre et, d'un point de vue juridique, du sexe à l'état civil.
Alors, dans ce cas, j'espère ne pas trop forcer le trait, mais est-ce qu'il ne se crée pas une sorte de jeu entre, dans ces ordres d'entretien entre le juge et les personnes qui souhaitent avoir ce changement d'état civil ?
Tu veux dire que les personnes interrogées, par exemple, vont jouer des stéréotypes pour se présenter, pour être vues plus facilement comme une femme ou comme un homme ? Et du coup, il y a une espèce d'artifice dans la
relation. Pas forcément
relation.
Artifice, mais...
De traits forcés, un peu.
Je l'exprimerai pas comme ça non plus.
C'est difficile.
Oui.
Certains ou certaines sont très conscients de ce qui va favoriser leur demande.
C'est ça.
Et donc, bien sûr, qu'ils et elles vont appuyer sur les choses qui ont une chance de marcher. Pour être caricatural, ben, si on demande à être reconnu comme une femme à l'état civil, quand on est une personne trans, eh bien, il vaut mieux pas fournir des attestations qui disent que vraiment, depuis qu'on nous connaît, on constate qu'on adore jouer au rugby, se rouler dans la boue. Il vaut mieux éviter de fournir des photos de nous en tenue de footing, genre short ou en train de faire du rugby avec des chaussettes de basket qui montent jusqu'à mi-mollet. Enfin, voilà, je caricature évidemment un peu. Donc, bien sûr, elles sont conscientes de ça. Bien sûr. Ces stéréotypes-là, c'est à la fois des contraintes et, dans ce dispositif contraignant, des ressources.
Oui, c'est jouer avec les codes, finalement, encore et toujours, pour ces personnes-là. C'est nécessaire.
Oui. Mais justement, ce qui valide encore davantage pour moi l'hypothèse d'une dimension relationnelle dans
Exactement.
La définition de soi et dans la définition des autres. Ces codes, ils sont au service d'un mode de présentation, d'une situation d'interlocution, d'une relation.
Moi, je me demandais quand même sur votre relation face à ces personnes qui ont autorité finalement sur une décision finale, mais même sur d'autres enquêtés, vous vous êtes souvent pris des refus ou des réticences à partager les expériences parce que ça peut être... Enfin, encore une fois, c'est quelque chose qui relève de l'intime.
De la vie privée, de la...
Oui, c'est ça. Oui, voilà.
Vous pensez au juge en particulier ?
Au juge, mais même à... lorsque vous faisiez des enquêtes sur l'homoparentalité ou des choses comme ça, c'est... vraiment une part de vie très, oui, très personnelle, qui n'est pas forcément le cas de tous les anthropologues, où on cherche pas forcément à avoir accès à cette petite partie-là qui n'est pas visible au quotidien, du moins.
Ou dont on ne parle pas, en tout cas, autre qu'avec les personnes concernées.
Mm. Ouais, j'ai essuyé des refus, bien sûr. Parfois, les gens vous répondent pas, tout simplement. Quelquefois, les gens vous disent hésiter. Donc là, vous avez une chance d'essayer de les convaincre. Et la plupart du temps, les gens sont ultra hésitants jusqu'au moment où on se rencontre, en fait. Puis assez tôt, je pense que j'ai des ressources relationnelles qui font que, quand ils me voient arriver et que la discussion commence, ben, je suis perçu plutôt comme quelqu'un de sympa, pas trop intrusif. Ça, ils ne savent pas encore toutes les questions que je vais poser. Non, je plaisante.
Le piège.
Mais quand même. Et ouais, enfin, l'expérience me laisse penser qu'à partir du moment où les gens me laissent une chance de les rencontrer, ça va. Mais c'est vrai qu'en amont, je suppose que ça peut être intimidant. Franchement, moi-même, je pense que je serais pas très enclin
à discuter
de ma vie à quelqu'un que je connais pas. Même si ça a l'air d'être quelqu'un de bien, enfin, j'ai pas de raison de penser que c'est quelqu'un de mauvais, et qu'il ou elle soit journaliste, sociologue, anthropologue, je suis pas sûr que j'accepterais de répondre à leurs questions. Alors, c'est aussi lié au fait que je connais un peu les ficelles, hein. Donc je verrais quelque chose là-dedans d'assez artificiel. Donc oui, je pense qu'il y a des gens qui sont soucieux, justement, qui se demandent qui je suis, ils ne me connaissent pas, Et donc, évidemment, quand je les contacte une première fois ou quand on leur parle de moi, parce que ça passe aussi souvent par le bouche à oreille, bah évidemment, ils ont pas, ils me connaissent pas toujours et ils n'ont pas toujours immédiatement confiance, spontanément. Et puis, il y a des... Parfois, il y a aussi d'autres freins hein, qui sont liés justement au débat politique. C'est-à-dire que le débat politique et idéologique sur toutes ces questions contribue à fabriquer un paysage social, politique, émotionnel, qui ne favorise pas chez ces personnes-là le souhait de vouloir parler d'elles. Alors pour certains, c'est un ressort. Hein. Pour certaines, c'est un ressort. Bah, ça peut être un ressort politique pour certaines. C'est-à-dire que du coup, elles peuvent avoir chevillé au corps la conviction qu'il faut parler, qu'il faut se raconter, qu'il faut se montrer, qu'il faut se visibiliser. Et donc là, oui, effectivement, à leur tour, elles peuvent aussi instrumentaliser, oui, se servir de ce que je leur propose. Mais beaucoup d'autres, je suppose, hésitent beaucoup à me rencontrer parce que ils sont pas très au clair avec ce que ça va devenir, ce qu'ils vont me confier, parce que il y a aussi des fantasmes hein, qui circulent. À propos de la GPA en particulier, on ne veut pas, parce que c'est une pratique qui n'est pas autorisée en France, on fait souvent des raccourcis, on pense que du coup c'est des pratiques illégales et qu'on pourrait être poursuivi, ce qui n'arrive pas, il n'y a jamais eu de poursuite de parents qui se sont tournés vers la GPA. Mais pour autant, ça peut constituer des freins. Et puis certaines personnes peuvent avoir tendance à vouloir faire le dos rond dans ces situations, c'est-à-dire attendre que tout ça passe. C'est aussi ce genre de difficulté que le contexte peut poser. Et puis, chaque fois que j'ai eu l'occasion de solliciter des juges, ou des magistrats plus largement, également des procureurs, bah là, il y a d'autres difficultés qui arrivent. C'est-à-dire que les juges peuvent souvent avoir tendance à penser qu'ils ont une espèce de devoir de réserve, en quelque sorte. Comme on se fait une image du juge dans notre société, comme étant quelqu'un de surplombant, un peu...
D'impartial,
etc. Ce qui est faux, oui, de mon point de vue. Parce que c'est pas possible. Il peut essayer de mettre tout en place. Hein. Ou elle peut essayer de mettre tout en place pour rendre des décisions impartiales. Hein. Sans doute que, quelquefois, c'est possible. Mais les juges, pas plus que les autres, hein, pas plus que les anthropologues, n'exercent leur métier en laissant totalement de côté ce qu'ils sont, leur socialisation, ce qu'ils pensent. Et bien sûr, ils n'étaient pas tout à fait dupes, sans doute, hein, du fait que moi, je m'intéressais aussi à tout ça, c'est-à-dire pas seulement concrètement à la manière dont ils travaillent dans leur bureau face à leur dossier. Mais aussi à ce qui les anime, à ce qui sous-tend leur positionnement professionnel, leurs décisions. Voilà, ça aussi, ça peut être des freins.
Eh bien, merci encore une fois à vous, Jérôme, d'avoir accepté notre invitation. Merci à mes co-animatrices et aux auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez donc suivre ce podcast sur le site de l'Université Toulouse-Jean Jaurès ou encore sur d'autres plateformes telles que Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. À bientôt donc pour un nouvel épisode avec notre invité et sur une autre thématique.